Bienvenue dans Au fil de la vie, consacré à l'Église protestante unie de Belgique. On va parler des femmes dans l'Église protestante aujourd'hui. Et pour nous en parler, on a une pasteur, Laurence Flachon. Bonjour Laurence.
Bonjour Jean-Guillaume.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante de Bruxelles-Musée. Et vous allez nous parler donc de la place des femmes dans l'Église protestante. Première différence, peut-être celle qui est la plus frappante avec l'Église catholique par exemple, c'est qu'il y a des femmes pasteurs justement. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a démarré quand et comment ?
Ça a démarré, alors les femmes pasteurs ont mis plus ou moins, ont commencé. Alors qu'est-ce qui fait la légitimité au fond pastoral ? La première chose importante, ce sont les études. Donc il fallait que les femmes aient accès aux études de théologie. Et ceci a été tout de même un certain chemin. Alors il faut savoir qu'au moment de la réforme, il y avait ce principe du sacerdoce dit universel chez les protestants. Sacerdoce universel, eh bien, les fidèles, donc, peuvent, s'ils sont croyants et baptisés, exercer un sacerdoce, c'est-à-dire être au service de l'Église. Alors, certaines femmes en ont déduit que, eh bien, elles étaient tout à fait compétentes pour prêcher elles-mêmes et devenir pasteurs. Il y a eu au XVIe siècle le mouvement des prédicantes. Certaines femmes se sont mêlées de prêcher, comme disait Calvin. Mais l'ordre social n'était pas prêt. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle et, aux États-Unis, le début du XXe siècle, en Suisse, un peu en Allemagne, dès 1907-1908, pour que les femmes commencent à accéder aux études de théologie. Dans l'entre-deux-guerres en Europe, et puis surtout après la Deuxième Guerre mondiale, elles sont devenues pasteurs, parce que l'accès aux études s'est fait petit à petit, et l'accès à la pleine responsabilité aussi. Donc, pour être pasteur en pleine responsabilité, parce que d'abord, on a cantonner les femmes dans des ministères dits féminins, comme l'enseignement aux enfants, par exemple. Mais pour qu'elles soient pasteurs de paroisse en pleine responsabilité, il a fallu qu'elles puissent faire les études complètes et qu'on leur confie des paroisses. Et ça, en Europe, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale.
Mais alors, il y a eu toute une parenthèse entre la réforme et, disons, le 1900 à peu près, pendant lequel, dès le début, les femmes se sont sentis un appel à devenir pasteur.
Tout à fait.
Ont pris d'elles-mêmes des responsabilités qu'on leur a retirées très vite. Parce que les premiers réformateurs, en tout cas les hommes, ils n'étaient pas très très ouverts sur le sujet, si j'ai bien compris. Mais entre-temps, les quelques siècles qu'il y a eu entre 1900 et la réforme, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le combat à continuer ou bien
Alors oui, il y a tout de même eu des femmes. Alors c'est vrai que les réformateurs voyaient le ministère comme étant réservé aux hommes, même si donc des femmes sont tout de même montées en chaire dès le XVIe siècle. Après, il y a eu des mouvements de réveil où les femmes, donc en temps de crise, ont aussi pris la parole parfois publiquement. Et puis les femmes se sont aussi beaucoup engagées dans l'Église protestante à travers soit des œuvres caritatives, le ministère de diaconesse, soit en étant femme de pasteur et en partageant en fait le ministère de leur mari. Donc elles ont enseigné, elles ont pris des responsabilités dans l'Église et petit à petit donc elles ont eu aussi une parole publique. Parce que avec la réforme est venue aussi une autre image de la femme et d'autres modèles qui sont proposés aux femmes. Traditionnellement, évidemment, on a le modèle de la femme du livre des Proverbes, par exemple, qui est une femme sage, qui mène bien sa maison, qui est capable aussi de mener le commerce. Voilà. Et puis, il y a d'autres modèles de femmes qui ont été mis en avant pour les femmes protestantes. Et justement, l'enseignement, les œuvres caritatives, tout cela a fait que les femmes ont pris des responsabilités de petit à petit dans l'Église.
Donc, dans ce que vous dites, on peut supposer que le protestantisme, d'une certaine façon, a soutenu l'émancipation des femmes au fil des siècles. On a l'impression que dans le protestantisme, il y a l'émancipation féminine.
Alors, je crois que c'est une question qui est assez débattue par les historiens, mais globalement, il est vrai que le protestantisme ayant quand même favorisé une responsabilisation des fidèles à tous les niveaux, une lecture individuelle de la Bible, et aussi une valorisation de la femme mariée, de son rôle d'éducatrice, tout cela a effectivement été plutôt favorable à l'émancipation des femmes.
Alors, à partir du moment 1900-1950, à partir du moment où les femmes accèdent au ministère, est-ce que ça a été évident pour tout le monde? Est-ce que ça a été bien accepté par les paroisses, par leurs confrères pasteurs hommes? Ou est-ce qu'il y a eu des résistances?
Je pense que ça n'a pas été évident pour tout le monde et ça reste un débat dans des églises plus conservatrices que les nôtres. Non, bien sûr, avoir une femme en position publique d'autorité qui enseigne aux hommes, ça n'a jamais été facile, en religion comme ailleurs. Donc, je crois que, certaines personnes ont été surprises, mais ont accepté l'idée. Pour d'autres, il a fallu plus de temps, et d'autres encore, ils sont aujourd'hui opposés. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui a joué, c'est notamment les sciences bibliques, l'exégèse historico-critique, qui a relativisé certains passages pauliniens sur la soumission des femmes. Donc ça a joué un rôle. En tout cas, dans les églises protestantes, petit à petit, ce ministère féminin, à partir du moment où l'accès aux études a été complet, s'est imposé, mais pas sans discussion, évidemment.
Et est-ce qu'on peut dire que les femmes ont une approche différente du ministère?
Ça, c'est une question très compliquée. Je pense que différentes femmes vont répondre de manière différente. Je ne sais pas personnellement si les femmes ont vraiment une approche différente du ministère. Traditionnellement, évidemment, on dit que les femmes sont très à l'écoute, dans le soin, plus que dans l'autorité forte. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont plus nuancées. Peut-être à une époque, les rôles sociaux aussi étaient très déterminée et donc chacun exerçait en fonction de l'éducation qu'il avait reçue. Aujourd'hui, les choses me semblent assez nuancées, mais peut-être d'autres collègues auraient d'autres réponses.
Alors, vous avez aussi dit que dès le début de l'Église protestante, les femmes avaient été appelées à s'engager, à prendre des responsabilités. Et aujourd'hui, dans toute l'Église protestante, on trouve les femmes à tous les niveaux, au niveau paroissial, régional ou national. Mais on voit bien, côté catholique, par exemple, il y a encore quelques mois, on a vu ce qui s'est passé avec Anne Soupa. On a parfois l'impression que les femmes font tourner la boutique, mais que quand il s'agit d'accéder à des postes à responsabilité, ça coince un petit peu.
Oui, alors, je crois que, encore une fois, ce n'est pas que dans l'Église. Parce que l'expression du plafond de verre, c'est une expression qui n'est pas appliquée à la religion, qui est dans les entreprises. Pour l'Église catholique, il y a effectivement un certain nombre de principes théologiques qui barrent l'accès aux femmes, en tout cas à la prêtrise. Mais on voit bien que certaines femmes qui ont vraiment acquis des compétences de théologiennes réclament, et à mon avis à juste titre, parce que leur contribution évidemment enrichit le débat, réclament de pouvoir participer à la prise de décision dans l'Église catholique. Elles sont parfaitement formées, elles ont une expérience du terrain. Donc il est vrai qu'on voit, on ne comprend pas bien pourquoi ça n'est pas possible, si ce n'est, on connaît les arguments traditionnels, mais je crois que l'Église catholique, évidemment, bénéficierait beaucoup du fait que ces femmes puissent accéder à des postes à responsabilité.
Oui. Parce que dans le fond, être femme, c'est aussi une expérience de vie qui est différente, et que une décision qui se prend en groupe et qui est la plus représentative possible, elle a peut-être aussi plus de chances d'être nuancée et d'être...
Oui, moi je crois que les meilleures décisions dans l'Église sont prises quand on a des groupes représentatifs, hommes, femmes, intergénérationnels et de personnes ayant différentes provenances. Moi, en tant que pasteur, je suis attachée et sensible au fait qu'on puisse avoir dans les instances de décision des personnes donc ayant des origines géographiques, des âges et donc des genres différents. Je crois que c'est là qu'on prend les meilleures décisions. C'est une chose que j'ai apprise notamment en étant au Conseil œcuménique. J'ai travaillé brièvement au Conseil œcuménique des Églises à Genève. Et je trouve que c'est vraiment un bon principe.
Ouais, je trouve que c'est une bonne conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence ?
Alors, sans doute, oui, c'est une bonne conclusion de pouvoir panacher, en tout cas, et de pouvoir, oui, avoir cette... d'essayer dans les instances de décision de représenter, d'être représentatif au fond de la société telle qu'elle est. Et les jeunes bénéficient de l'expérience des anciens, des plus âgés, et eux sont aussi mis en question par les jeunes. Et ce panachage-là, hommes-femmes aussi, évidemment, je crois vraiment que ce sont les meilleures décisions qui sont prises ainsi.
Laurence Flachon, merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau fil de la vie consacré à l'EPUB, l'Église protestante unie de Belgique. Bonne journée.
Merci.